le Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Toutes les cultures du monde s'invitent sur les scènes d'Avignon en ce festival off au mois de juillet 2022. Eh bien tiens, justement, on serait un petit peu paradoxaux, nous autres, de ne pas aller voir le monde quand on en aura l'occasion. Et on va commencer par un petit pas, mais tous les grands voyages commencent par un petit pas et on va traverser le Rhône. On va aller à Villeneuve-les-Avignon ou sur les plaines de l'Abeille. Eh bien, il y a eu des chapiteaux qui ont été érigés et qui hébergent les spectacles du festival, un de ces festivals dans le festival, le festival Villeneuve en scène, pour lequel je reçois Guillaume Fulconis. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes metteur en scène d'une des compagnies qui a investi ses chapiteaux, justement, pendant ses soirées à Villeneuve-les-Avignon. Et vous présentez plusieurs spectacles, notamment ces deux-là, Louise et la révolte des jardins, d'une part, et Camille et la grève des bouchères heureux. Désolé pour la prononciation, mais c'est en écriture inclusive. Camille et la grève des bouchères, donc en alternance, sous un chapiteau de ce festival Villeneuve en scène. Louise et la révolte des jardins, Camille et la grève des bouchères, tout ça c'est un travail au sein de la compagnie Ring qui nous vient de Besançon, donc un petit coin de France, un petit coin du monde et justement qui vient être représenté à Avignon. Alors comment s'est créée la compagnie Ring justement et quel est le cœur de votre travail ?
Alors le Ring Théâtre, c'est une compagnie donc basée à Besançon mais qui rassemble des artistes qui viennent un peu des quatre coins de la France, même si il y en a une bonne partie qui sont de Franche-Comté. Mmh. Elle s'est créée il y a une dizaine d'années. On s'est rencontrés pour beaucoup dans les écoles supérieures de théâtre qu'on avait fait. On est plusieurs à être de promo. On a fait notamment l'ENSAT à Lyon, la Comédie de Saint-Étienne ou la Comédie de Montpellier, qui étaient à l'époque trois écoles où les promos s'entendaient bien. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés entre metteur en scène, élève comédien, élève scénographe. Du coup, ça a créé une petite équipe qui a évolué. Puis après, il y a d'autres gens qui ont rejoint l'équipe, notamment autour de Besançon.
D'accord.
Et on était venu déjà il y a quelques années au Festival Villeneuve en scène avec Édouard II, une pièce classique, mais qui était déjà du théâtre épique et populaire avec beaucoup d'acteurs, une sorte de théâtre comme ça festif qu'on aime bien. Mmh. Et là, on revient cette fois avec une création contemporaine en deux volets, le Bal du Nouveau Monde, qu'on a commencé à écrire il y a quelques années et qui est sorti cette année. Qui a été créé en salle et que là on est très content de sortir en plein air à Villeneuve en scène. Donc il y a effectivement beaucoup de chapiteaux là-bas, c'est un festival des théâtres en itinérance, que ce soit chapiteaux, tréteaux, caravanes. Et nous on a un dispositif vraiment en plein air avec deux gradins en bifrontal qui sont montés sous les étoiles et qui attendent le public à la fraîche, au milieu du verger, à 22h tous les soirs.
D'accord, autant pour moi. Alors, avec un nom comme ça, le Ring Théâtre, la compagnie Ring Théâtre, ça évoque un petit peu le conflit, la compétition sportive, ou parfois même martiale. Et j'ai l'impression, à tort ou à raison, qu'en fait, quelques années, 2003, si ma mémoire est bonne, les conflits sont un petit peu au centre de vos préoccupations, en tout cas, des sujets de mise en scène.
Bah, en fait, c'est une référence directe au ring de boxe et c'est aussi une référence à un auteur qui compte beaucoup pour nous et qui a beaucoup compté pour la création de ses pièces, qui est Bertolt Brecht. Mm-hmm. Et qui disait que lui il s'ennuyait un petit peu au théâtre de son époque, qu'il trouvait vraiment très bourgeois.
Dans les années 1920 quoi.
Oui c'est ça, je crois qu'aujourd'hui on peut souvent sur certains grands plateaux trouver le théâtre un peu bourgeois et un peu encrouté aussi encore aujourd'hui. Et lui il se disait qu'il voudrait voir du théâtre et se passionner autant que quand il va voir un match de boxe. Il voulait que ça fuse. Et bien sûr, c'est une métaphore du conflit et du combat, mais c'est qu'il voulait voir les idées s'affronter sur le plateau pour pouvoir décider, quoi. C'est l'idée d'un théâtre politique qui n'est pas pontifiant, mais au contraire qui met en scène les grandes oppositions de son temps et qui traverse la société, quoi. Dans une perspective un peu de... Ouais, pour lui, c'était une perspective de lutte des classes.
D'accord, de lutte tout court, de lutte des classes par la métaphore dans ce qui se retrouve un petit peu dans l'intitulé de la compagnie Ring Théâtre. Alors, les spectacles que vous nous proposez pendant ce Festival of 2022, Louise et la révolte des jardins d'une part et Camille et la grève des bouchères d'autre part, en fait, ce sont deux volets d'un diptyque, ce que vous appelez le bal du Nouveau Monde. Expliquez-nous un petit peu ce concept, s'il vous plaît.
Alors, en fait, on avait envie de... Après Édouard II, on avait monté un grand spectacle épique mais historique qui renvoie au théâtre élisabétain. On avait envie de voir si on pouvait créer une histoire épique avec des fables contemporaines. Et on avait vraiment envie de parler de sujets très contemporains. Donc on a commencé à travailler en improvisation avec les acteurs. Puis il se trouve qu'on avait quand même pas mal de choses à dire. Du coup, ça tenait pas en un spectacle. Donc il y en a deux, puis il y en aura même un troisième l'année prochaine. Ça deviendra même un triptyque.
Un diptyque de trois.
Et l'idée, c'était d'avoir, de faire un petit pas de côté. Donc on avait envie de parler du monde contemporain, mais depuis notre époque. Donc on s'est dit, on s'est projeté un petit peu dans le futur. Donc là, on s'imagine que c'est 2082. Et donc on s'imagine à ce que pourrait être... nos descendants assez proches, puis on s'imagine que peut-être la société a traversé pas mal de tracas et qu'ils sont en train de reconstruire un nouveau monde. Alors le mot, on l'avait avant la crise du Covid, alors du coup depuis il a pris un nouveau sens parce que tout le monde s'en gargarise, mais on a commencé à travailler avant la crise du Covid, mais bon ça nous dérange pas. Et du coup, l'idée c'est que ces gens-là, ils se réunissent et ils font du théâtre comme nous. Et ils racontent souvent, comme nous, les histoires de leur passé. Mais leur passé, c'est notre présent. Et du coup, ça a permis de faire un petit pas de côté et de regarder comment fonctionne notre monde à travers les yeux de gens qui ont peut-être résolu un certain nombre de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Que ce soit en termes de rapport de domination, de problèmes de rapport à la nature, ils sont peut-être un peu plus sages que nous. Et du coup, nos excès leur paraissent un petit peu étranges. Et ils s'en amusent et ils racontent ces histoires-là. Donc, c'est ces deux histoires.
Vous ne trouvez pas ça un petit peu paradoxal de faire preuve d'anticipation en parlant de théâtre contemporain ?
Bon, non, pas du tout. C'est un...
Là, je vous taquine, évidemment.
Évidemment. Non, mais c'est une... Ouais, c'est un peu une blague, en fait. C'est-à-dire que ça permet d'avoir, d'avoir un petit regard décalé. Puis c'était aussi l'idée de faire le pari pour une fois. C'est très à la mode, les récits d'anticipation. C'est un des genres populaires qu'on voit le plus souvent dans les séries, par exemple. Et très souvent, ça se passe mal. Soit c'est des attaques de zombies, soit c'est des films catastrophes et de l'apocalypse. Et je pense que c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur d'une peur de l'avenir. Un petit peu comme dans les années 60, on avait des extraterrestres partout parce qu'on avait peur de la bombe atomique. Je crois qu'aujourd'hui, on a des zombies partout parce qu'on a peur du réchauffement climatique, d'une guerre. Enfin, on sent qu'il y a plein de chances que ça finisse mal. Et nous, on avait envie un petit peu de prendre le contre-pied et de se dire que peut-être ça finit... Que si ça passe par une phase de crise... Peut-être que ça se reconstruit et peut-être que c'est peut-être pas les méchants qui gagnent à la fin finalement. Donc c'était un petit peu une manière de le décaler. Et après, eux, ils racontent leurs histoires et leurs héros, c'est peut-être pas les puissants d'aujourd'hui. Peut-être que les héros qu'eux ont retenus, c'est pas ceux qu'on voit aujourd'hui. Ce sera peut-être pas le président de la République le héros des pièces, quoi.
Oui, voilà, Donald Trump sera pas forcément la personne dont il fera l'objet de statut dans un futur pas si lointain que ça. Finalement, on verra bien. On sera peut-être encore là pour voir ça. Allez donc savoir. Toujours est-il que dans le futur, on imaginera peut-être ces personnages, Louise et Camille, dans les pièces respectives que vous nous proposez. Alors, Louise et la révolte des jardins. Alors, révolte et jardin, déjà, c'est des mots qui, ça fait un petit peu oxymore parce que c'est des, comment dirais-je, le jardin, c'est un lieu de quiétude, un lieu paisible et la révolte, c'est l'agitation. La subversion. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce premier spectacle. On en viendra au second après.
Alors, Louise et la révolte des jardins, c'est une histoire vraie qui se passe à plein d'endroits, et notamment à Besançon, mais à plein d'endroits en France. C'est l'histoire de jardins populaires. Vous savez, les jardins populaires, c'est ces endroits qu'on a un petit peu partout dans les villes, à la sortie des villes, qui sont les jardins...
Parfois d'ex-jardins ouvriers, d'ailleurs, tout simplement.
Oui, ou même encore des jardins ouvriers, et qui sont souvent dans ce qu'on appelait avant les faubourgs. Les faubourgs, c'était les derniers endroits de bonne vie pour les classes populaires. C'est l'endroit où on allait en goguette le dimanche, où on pouvait faire un barbecue gratos à la fraîche à côté de la rivière, où les gamins pouvaient jouer. Et ces endroits, ils disparaissent de plus en plus. Et il n'y a plus d'endroits de loisirs populaires dans les villes, en fait. Maintenant, si on veut un loisir populaire en ville, ça te coûte tout de suite 3 balles parce que tu as pris un café en terrasse, quoi. Et ces jardins-là, c'est ça. C'est les derniers endroits de bonne vie. Et souvent, ils sont menacés. Aujourd'hui, par l'extension des villes et par l'appétit des promoteurs immobiliers. Donc là, ça raconte des jardins populaires qui risquent d'être bétonnés parce que le maire a décidé de faire un éco-quartier dessus.
Alors déjà, oui, éco-quartier, des jardins qui disparaissent à cause d'un éco-quartier.
Ouais, ça paraît une blague, mais c'est vrai. Ça arrive tout le temps. Par exemple, ça arrive à Besançon. Mmh. Ça a beaucoup inspiré la pièce. À Besançon, il y a des jardins populaires, c'est le quartier des Vettes, qui vont être détruits parce que la mairie a décidé de faire un éco-quartier.
Il se à trouve Bourges, que... à Nantes aussi, ça arrive, vous savez.
Ça arrive à Bourges, ça arrive à Nantes, ça arrive à Aubervilliers. À Aubervilliers, c'est pour faire les infrastructures des Jeux Olympiques. Ça arrive au cas dans le quartier des Lentillères à Dijon. Enfin, ça arrive partout. Et il se trouve que des fois, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. et qui essayent de les sauver, ces jardins, et puis des fois ils réussissent. D'où l'idée de révolte des jardins, c'est la révolte des jardiniers bien sûr.
Et un autre aspect, là c'est dans un monde un petit peu plus industriel, c'est Camille et la grève des bouchers. Alors on connaissait les vaillants bouchers de la Villette que chantait Boris Vian par exemple, les joyeux bouchers pardon, pas les vaillants bouchers, et là on a des bouchères aussi, et c'est vrai que dans les abattoirs la manœuvre est un petit peu plus mixte que ce qu'on pourrait imaginer. Et bien justement là aussi c'est le foyer d'une histoire que vous nous racontez dans un second spectacle.
Alors là, c'est une grève en fait. Donc effectivement, sur le premier, on a plutôt un volet, disons, on a des thèmes plus écologiques qui sont abordés, à savoir l'artificialisation des sols, la question de l'agriculture urbaine, etc. Et là, c'est plus sur le volet social et industriel. Donc ça raconte une histoire qui peut-être peut paraître plus classique, c'est la désindustrialisation. Un matin, la PDG du groupe alimentaire qui détient les abattoirs décide de délocaliser en Pologne, et donc elle ferme. Et du coup, y a une grève. Et c'est l'occasion de. Et c'est pas pour rien que ça se passe dans des abattoirs, puisque c'est un endroit où il va y avoir tout d'un coup qui vont s'opposer la question des conditions de travail, de la souffrance au travail et la question de la souffrance animale. Et du coup, c'était pour nous un moyen assez intéressant de reposer cette question avec un regard de jamais oublier où est la machine en fait. Puisque on peut croire que le bourreau des animaux, c'est directement l'ouvrier. Alors certes, c'est lui qui tient le couteau, ou le matador, ou la pince électrique. Mais souvent, l'essentiel de la souffrance infligée, elle vient de l'organisation industrielle et des cadences infernales, qui infligent aussi des souffrances à la classe ouvrière, en fait. Et du coup, l'idée de traiter les deux sujets en parallèle, ça pose une question qui est assez difficile à répondre. Puisque finalement, un abattoir industriel qui ferme, c'est peut-être une bonne nouvelle.
Mais c'est ça qui, qui paraît paradoxal aux gens qui entendent ce genre de nouvelles aux actualités.
C'est
un boulot de con, c'est bien. Et puis finalement, les gens qui le vivent,
alors,
eux, sont très
évidemment,
malheureux.
Évidemment, là, c'est très fort parce qu'on voit tout de suite où est le conflit. Mais c'est la même chose si on décide demain d'arrêter les bagnoles, ce qui serait une bonne chose. Oui, à condition de ne pas laisser sur le carreau la classe ouvrière qui y travaille. Donc c'est comment on règle ces questions-là. Et nous, le pari qu'on peut faire, c'est qu'on peut les régler qu'en définissant un intérêt général, quoi. Donc l'idée, c'était de le mettre en scène dans notre monde, où ça se passe mal, forcément, parce que ça va au conflit. Mais vu de ce futur-là, de 2082, du bal du Nouveau Monde, eux, ils ont peut-être des pistes pour résoudre ces conflits d'usage.
Vous êtes originaire de Besançon, vous avez une barbiche, vous avez des lunettes. C'est pas pour rien que vous ressemblez à Proudhon, vous, hein, quand je vous entends parler. je vous tease évidemment. Mais alors, du coup, ces deux spectacles en fait ont été écrits par une autrice qui s'appelle Yana Raymond.
Alors, on dit Yana.
Okay, autant pour moi. Yana Raymond, et en fait, vous-même, avec les acteurs, vous avez été partie prenante de ce processus d'écriture.
Oui, Yana, elle a rejoint le projet alors qu'on avait déjà commencé. On savait à peu près les histoires qu'on voulait raconter. On avait rencontré les jardiniers de Besançon, on avait rencontré aussi des syndicalistes de PSA chez nous, parce que chez nous, il n'y a pas d'abattoir, c'est plutôt l'industrie automobile.
C'est Peugeot, tout
Belfort,
ça.
Alstom et tout ça. Donc on avait déjà à peu près les scénarios, les acteurs avaient commencé à improviser, et puis je sentais qu'il y avait une matière qui était vraiment intéressante. Et je voulais en faire quelque chose de grand, quoi. Donc je voulais qu'il y ait une vraie dimension littéraire. Je voulais pas faire une langue quotidienne, justement, je voulais héroïser ces classes populaires, ces petites gens, ces gens du quotidien. Donc il fallait vraiment faire appel à quelqu'un dont c'est le métier d'écrire. Je voulais pas que ça reste juste des mots du quotidien qui sortent des improvisations. Et c'est comme ça que c'est sur ce projet-là que j'ai rencontré Yana Raymond, qui est une autrice d'autre génération. Qui écrit depuis quelques années aussi. C'est sa première grande pièce aussi qu'elle écrit, et elle a accepté de se jeter un peu dans ce projet un peu fou avec nous. Et du coup, elle est partie, elle est venue en répétition, et elle est partie vraiment des improvisations des acteurs. Donc elle a vraiment tout noté. Elle a fait les interviews aussi des ouvriers, des jardiniers, des infirmiers scolaires qu'on a rencontrés. Et en mélangeant tout ça, elle a écrit petit à petit les dialogues, et elle a fait vraiment du sur-mesure avec chacun des comédiens, chacune des comédiennes de la compagnie. Et du coup, moi je suis assez content de l'œuvre que ça donne, qui est vraiment une écriture très singulière, et qui en même temps est très ancrée dans le réel, parce qu'elle part du réel.
Tout simplement. Et puis on peut aussi y voir comment les préoccupations écologiques, tout à fait légitimes de nos jours, nourrissent et entretiennent et se conjuguent avec les préoccupations sociales, puisque l'un ne va pas sans l'autre, depuis longtemps déjà, mais aujourd'hui, ça nous paraît particulièrement pertinent. Voilà, bravo pour ce diptyque, en fait, que vous nous présentez donc en plein air, dans le cadre du festival Villeneuve en Seine sur la plaine de l'Abeille. C'est à 22h le soir. Il y a une représentation après-demain à 19h, et sinon c'est à 22h pour Louise et la révolte des jardins et Camille et la grève des bouchères. Alors évidemment une écriture des sujets sociaux tout à fait préoccupants, une écriture plus assez proche du réalisme, mais pour autant on n'oublie pas l'humour. Et d'ailleurs vous avez le bon goût de rappeler sur votre site internet cette citation de Bertolt Brecht que j'avais oubliée pour ma part, et vous me l'avez remise en mémoire: un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on se doit de rire.
Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord.
En tout cas, merci Guillaume Fulconis d'être venu nous parler de ce travail de la compagnie Ring Théâtre, Louise et la révolte des jardins, et enfin Camille et la grève des bouchères. Merci de venir nous parler de tout ça, et puis je vous invite, chers amis, à aller faire une petite escapade bucolique pour voir ces deux spectacles-là à Villeneuve-les-Avignon, dans le cadre Festival Villeneuve en Seine. Merci.
Merci.